dirigeants et dirigeantes APM, et si vous rejoignez une aventure collective. Rendez-vous les 19 et 20 mars prochains à Paris, Porte de Versailles, pour la Convention internationale APM 2026 sur la thématique de l'Odyssée du dirigeant. Inscrivez-vous dès maintenant sur convention-internationale.apm.fr. Bonne écoute!
Bertrand, bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM, je suis Rémi Rochon et aujourd'hui j'invite Bertrand Barret pour parler innovation. Salut Bertrand, bienvenue.
Salut, merci, bienvenue.
Écoute, c'est un vaste sujet, on va essayer de trouver comment le faire tenir en 30 minutes, 30-40 minutes. L'objectif de cette discussion, c'est toujours de donner finalement un extrait de ce que tu exprimes toi pendant une journée quand tu es en plénière avec les adhérents, en club. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir tous les experts, donc ça a cette vocation-là, ce podcast. Et puis sinon, ça permet aussi d'être un mémo audio. Quand je sors de ma journée avec Bertrand et que j'ai envie de transmettre ça à mon codir, j'ai mon responsable R&D, j'ai absolument envie qu'il ait un déclic sur l'innovation, hop, je lui envoie ce mémo. Et donc, voilà, on va essayer de traverser ce chemin sinueux qui est l'innovation. Toi, ça fait 30 ans que tu accompagnes des entreprises sur ce sujet précis. Alors, on va voir que ça embarque finalement beaucoup de choses. 30 ans déjà d'innovation.
Ben oui, j'avais 7 ans quand j'ai démarré. Non, un peu plus, hélas. Effectivement, 30 ans de chemin sinueux, parce qu'on n'est pas parti sur l'innovation directement, hein. On a d'abord créé une entreprise de design industriel, donc un chemin qui est parti du terrain, la conception de produits. Et petit à petit, on s'est aperçu que les méthodologies qu'on utilisait dans le design nous servaient à innover. Donc le chemin a changé.
Et donc Bertrand, tu viens de le dire, une de tes particularités, toi, en tant qu'expert APM, c'est que tu es entrepreneur.
Effectivement, 50 personnes dans mon cabinet et... Bon, depuis quelques années, j'avais le sentiment que la boîte tournait, que mes équipes étaient solides, autonomes, et que moi, j'avais envie d'aller voir d'autres choses. Donc, toujours entrepreneur et toujours à la chasse aux projets complexes.
Donc, on s'est rendu compte en préparant l'épisode qu'on était en fait voisins à Lyon. Toi, tu es à base à la Tour de Salvani, nous, on est dans le cœur de Lyon, on aurait pu se voir ailleurs, mais nous sommes à la maison de l'APM. Quel plaisir d'être aujourd'hui à la maison de l'APM. Tu es le fondateur donc, du groupe Zebra, vous définissez comme une Innovation Factory ?
Effectivement, au-delà du conseil, hein, on essaye de produire les solutions. C'est-à-dire, on est structuré avec une partie qui est du conseil en stratégie d'innovation. Comment on innove, pourquoi on innove, dans quel domaine, etc. On écrit des plans d'innovation. Mais on a aussi toute une série de studios créatifs pour exécuter les projets.
Toi, à la base, t'es quoi ? T'es designer, t'es ingénieur, t'es commerçant ? C'est quoi ton pédigré ?
Ah bah tiens, voilà. On va parler d'hybridation, hein, parce que c'est pour ça qu'on s'appelle Zèbre, hein, Zebra, parce qu'on veut hybrider. À l'origine, moi, je suis un ch'ti. Je joue au basket quand je suis petit. Je fais sport-études. Je rentre en équipe de France en cadet. Je viens. Et à 17 ans, après mon bac, je viens jouer au basket à Villeurbanne, ce qui m'amène à Lyon.
Okay.
Et je me dis là, bah, je vais être...
Très bonne équipe, hein, l'équipe de Tony Parker maintenant.
Ah, bah, absolument, maintenant l'équipe de Tony, à l'époque d'Alain Gilles, pour les plus vieux d'entre nous. Et je me dis, bah, je vais être basketteur pro. Donc je fais une école de marketing et de communication pendant ce temps-là, en me disant qu'on verra. Et 5 ans après, à 22 ans, je me dis, non, je ne serai jamais pro, c'est trop dur. J'arrive pas à percer. Je suis trop petit déjà, 1m85, je fais partie des tout petits. Mais aussi, je crois que je m'aperçois que je ne suis pas un super grand joueur,
okay,
mais que je suis un très bon meneur. C'était mon poste. Et que je sais distribuer la balle. Je sais faire tourner. Et bon, voilà, c'est ce que je garde de cette expérience de basket. J'ai fait les championnats du monde universitaire, les championnats d'Europe. Bon, je me suis vraiment bien marré. Et ça m'a formé à l'équipe, à la constitution des équipes. Et là, je me dis, je découvre un métier. J'étais destiné à aller peut-être dans la communication. Et je découvre un métier qui est le design à ce moment-là. Et je me dis, bah c'est ce que je vais faire. To design in English, concevoir. Je me prends de passion pour ça parce que je me dis que c'est la manière la plus profitable pour une entreprise d'allier son outil de travail et la création. C'est-à-dire comment créer des choses pertinentes ou des services ou des produits pertinents qui créent de la valeur. Yeah. Et je me lance là-dedans. Je gagne un concours de création d'entreprise en 86 qui s'appelait la Fondation Jacques Douce. Une espèce de start-up contest d'aujourd'hui.
En 86.
En 86. Alors, on ne disait pas pitch, on ne disait pas start-up, on disait juste projet. Et je gagne ce truc-là, ici, à Paris. mes premiers clients viennent de là, je me lance, je ne connais rien à mon métier. À part que, n'étant pas designer justement, je ne vais pas rentrer par le dessin.
Tu n'arrives pas technique aussi. Tu arrives avec une approche usage plutôt
usage
que technique.
Et marché.
Et marché.
Pour qui on travaille et qu'est-ce qu'on va leur produire comme valeur, quoi. Mais je ne sais pas dessiner.
Trouvé fascinant sur ton site parce que, alors déjà, c'est rare d'avoir des entrepreneurs experts, ce n'est pas tout le temps. Je suis plus habitué à recevoir ici des conférenciers ou des gens qui vont avoir un DEA dans telle discipline ou qui vont avoir tel pédigré, mais plutôt universitaire ou alors conférencier, etc. Les entrepreneurs, et encore plus, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des entrepreneurs sur du produit physique aussi. On parle beaucoup de services, on est quand même dans une époque où on parle beaucoup de services et je suis trop content de pouvoir parler avec toi de produits, de design. Et quand un des trucs qui m'a marqué quand je suis allé visiter le site de Zebra, c'est, je vais peut-être me tromper sur le chiffre, mais 1200 produits issus de vos laboratoires d'innovation avec toutes les étapes dont on va parler ensuite, mais qui ont une finalité, c'est qu'ils arrivent sur le marché et qui vont remplir finalement un besoin qu'on avait ou ils vont réinventer un usage. C'est quoi ton top 3 des produits emblématiques que tu as participé à mettre sur le marché depuis ces 30 ans?
Si je remonte très très loin, c'est la brosse à dents à ventouse que vos enfants ou petits-enfants ont dû avoir. C'est l'ascenseur à cornichons des pots Amora et d'autres.
Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi on ne les voit plus, ces ascenseurs? Tu sais que ça a été dans ma famille un running gag pendant des années. À chaque fois, on chambrait ma mère parce que pendant des années, on se dit, c'est quand même génial. Hein, t'as vu ce qu'ils ont mis dans le pot à cornichons et ça a été un running gag. Ouais. Il y est plus. C'est une histoire de quoi, là?
J'espère que ça sera pas sur mon épitaphe, le roi des cornichons.
Le roi des cornichons.
Alors, c'est une histoire de sustainability.
C'est ce qu'on s'est dit. Ils peuvent pas le faire dans un autre matériau que le plastique et plus personne veut le voir dans les pots. Quoi.
Et voilà. Beaucoup de monde veut le voir dans les pots, mais par contre, on économise 200 tonnes de plastique. Et voilà.
Donc là, vous êtes en train de bosser sur des alternatives?
Absolument.
Ok, on peut pas en dire plus. Et donc le troisième,
la raquette de tennis de Raphaël Nadal ou de Carlos Alcaraz en ce moment, qui est produite évidemment par la grande marque Babola, marque lyonnaise.
Voilà, Babola qui est une des marques mythiques que tu accompagnes depuis combien de temps?
30 ans.
30 ans, ah oui, ok, donc c'est ton client historique.
C'est mon client stratégique, c'est là où j'ai appris mon métier. On développe ensemble des méthodologies, on développe ensemble des structures de travail, comment faire de l'innovation plus intelligente. Ouais, c'est des copains, des amis, des accompagnateurs, des mentors, des partenaires.
Alors pour les gens qui... Bon, évidemment, tout le monde connaît Babola, mais si vous êtes dans la région lyonnaise, il y a une espèce d'aura mystique autour de cette marque, Babola. Il y a un truc mystique et mythique. Et donc voilà, toi, tu es dans le conseil, dans le grand secret des dieux sur comment les produits sortent de là-bas. Quand tu rentres dans une boîte ou quand tu vois pour la première fois, rencontrer quelqu'un qui t'a consulté, quels sont les signaux faibles qui t'arrivent, sur lesquels que tu analyses pour te dire « je comprends pourquoi ils y arrivent » ou « je comprends pourquoi ils n'y arrivent pas à innover ».
Oui, super question. Nous, on parle d'expérience. On ne vend plus des produits ou des services, on vend des expériences. Si on ne vend que des produits, malheureusement, ils vont beaucoup venir de l'Asie ou des pays à faible main-d'œuvre, à faible coût de la main-d'œuvre. Donc nous, on dit qu'on vend des expériences. Ça peut se transformer par des produits ou des marques ou des magasins ou des tas de choses comme ça. Donc on rentre par l'humain. Ça fait bien longtemps qu'on a remis en cause certaines pratiques du marketing qui parlent de cibles.
Ouais.
Ou qui parlent de catégories socio-professionnelles ou qui parlent de revenus. Nous, on parle d'humain.
Okay.
Et donc, on part des émotions, de tout ce qui est émotionnel. Et donc, les signaux faibles, c'est la rigueur, c'est la rigidité dans la présentation de l'offre, c'est des conventions, beaucoup de conventions. Et notre méthode, elle est toujours la même. On part de l'observation réelle. Nous, on appelle ça le marketing du réel.
Okay.
Si vous demandez à des gens, est-ce que vous brosser les dents tous les jours, 3 fois par jour, 2 minutes par jour, comme c'est recommandé. Bon, la plupart du temps, oui, je fais bien attention. Si vous les filmez, non. Si vous demandez des gens... j'ai souvent une petite blague comme ça quand je fais mes conférences, parce que maintenant, j'en fais beaucoup. Il y a 200 personnes dans la salle et je dis, les gens mentent par omission ou par statut social. Tant pis, je vais dire un truc qui peut choquer, mais qui a voté Front National aux dernières élections? Il n'y en a pas un qui lève le doigt.
Ah oui.
Alors et si on observe les yeux. Voilà. Et donc, en fait, on commence par ça. On observe la réalité, on la filme. J'ai des équipes dont le métier est d'aller filmer des consommateurs, des usagers ou des usines pour ramener les thèmes d'innovation.
Mais alors, si on remonte encore avant, qu'est-ce qui aujourd'hui motive une entreprise à se lancer, à démarrer? On est au tout début de ce projet d'innovation. Qu'est-ce qui fait que j'ai un déclic et je me dis, il faut que je me mette en route et que je me mette sur le chemin?
Il y a trois types d'entreprises. Il y a ceux qui ont peur. Il s'est passé un drame ou une perte de chiffre d'affaires ou une difficulté. Et là, on se dit, oula, faut remettre en cause des choses. Baisse de la marge, etc. Il y a ceux qui sont conquérants. Et qui se disent, je veux attaquer un nouveau marché, je veux me diversifier, je veux... Et puis, il y a ceux qui sont bons élèves et qui se disent, il me faut une part d'innovation dans ma boîte, et voilà. Donc, il faut savoir qu'innover au sein même de l'entreprise, ce n'est pas la meilleure place hein, pour innover, dans la mesure où c'est dangereux, l'innovation. C'est un chemin embourbé, chaotique, où on se remet en cause pas mal et où on prend des risques. Donc, en réalité, il y a beaucoup de dirigeants qui se disent... Je ne vais pas mettre en danger mes cadres.
Oui.
Et je vais les mettre en coopération avec l'extérieur. Mais c'est l'extérieur qui est là pour secouer l'arbre. Et bah, ma foi, si ça ne marche pas ou s'il y a des problèmes, on coupera la branche. Mais si on met à mal les cadres en interne, c'est plus délicat.
Oui.
Vous savez, quand Kodak, soi-disant l'expérience ou l'histoire que tout le monde connaît, Kodak qui était le champion du monde de l'argentique, qui soi-disant invente le numérique et puis le laisse passer... Ben, ce sont les cadres qui n'ont pas pris la bonne décision ou et qui se font parfois punir. Quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « je vais commencer par l'externaliser un moment ».
Aujourd'hui, on va essayer de s'extraire un peu de simplement ton prisme à toi de chef d'entreprise. Si on regarde un peu la map globale, qui innove? Est-ce que c'est réservé aux grands groupes qui ont des cellules, des moyens, des structures? Est-ce que c'est réservé aux startups qui, de fait, elles sont innovantes, elles arrivent sur le marché avec une rupture? Est-ce que c'est réservé aux PME parce qu'en fait, elles sont agiles, elles sont plus rapides, elles sont plus... Qui innove aujourd'hui?
Alors, très intéressant parce qu'on rentre dans les biais cognitifs. Start-up égale innovante, non. Start-up égale discours innovant. Mais ce n'est pas forcément des ruptures. Hein. Mais déjà, le nom est innovant, donc c'est rigolo. Mais je rappelle quand même que 9 sur 10 finissent avant la fin du parcours. Donc, qui innove? Les innovateurs. Et les innovateurs, on les trouve beaucoup dans les ETI. Ces entreprises sont les mieux placées pour innover quelque part parce qu'elles ont l'agilité du petit, mais quand même une surface... de déploiement déjà existant, parce qu'en matière d'innovation, il faut trouver le bon thème, ce qu'on appelle le problème à résoudre. Il faut ensuite trouver la bonne idée, mais il faut ensuite la lancer. Hein. Donc, les mieux placés sont en réalité les grands groupes, parce qu'elles ont l'accès au marché. Ouais. Elles ont le tuyau de sortie. Mais elles sont tellement rigides, structurées, elles défendent leur core business, que évidemment elles ne sont pas vraiment structurées pour laisser pousser la nouvelle idée. Donc, ETI, ce n'est pas trop mal. PMI, évidemment, et ce sont en général dirigés par des propriétaires, patrons propriétaires, donc ils sont très engagés, positifs, ils y croient, youpi.
Mais ils n'ont pas forcément le tuyau de sortie.
Absolument. Ouais. Et donc les ETI, c'est le profil idéal. Et de plus en plus, heureusement, on assiste à un phénomène qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire des petits qui s'allient avec d'autres, ou des petits qui s'allient avec des ETI, ou même des petits qui s'allient avec des grandes entreprises. Et ça, ça permet d'avoir le tuyau de sortie au bout et l'agilité du début.
Est-ce que tu dirais que pour innover, il faut qu'il y ait une culture de l'innovation qui irrigue l'ensemble de l'entreprise ou ça peut être circonscrit à une cellule, à un département?
Ouais. La bien-pensance dirait qu'il faut infuser tout ça dans l'entreprise au risque de choquer. Je pense que non. C'est un métier, ce n'est pas une activité, l'innovation. C'est-à-dire que ce n'est pas la créativité. Je crois que la créativité, il faut l'irriguer dans l'entreprise. Allez-y les gars, trouvez des idées, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et c'est vieux comme le monde, c'est la boîte à idées. L'innovation, c'est un métier très dur, avec des outils, des méthodes, des process. Et il faut le circonscrire à très peu de monde dans l'entreprise. Sinon, on passe son temps à travailler sur des trucs qui ne rapporteront pas demain.
Alors, comment on va... on va rentrer directement dans l'organisation. C'est quoi pour toi l'organisation idéale si j'ai envie d'avoir une cellule innovante performante? Donc, on a compris que, idéalement, avec Zebra ou un autre, mais en tout cas, il faut mettre des gens de l'extérieur qui vont apporter de la méthodologie, de l'expérience et puis du recul sur le marché, qui vont avoir des domaines d'expertise. Et là, c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, tu as parlé du design, du produit, du dur. Après, tu as parlé des services à travers l'expérience et... En fait, on va aussi parler de comment on accède au marché. Donc, il y a comment je package mon histoire. Donc, peut-être ça viendra après dans la discussion. En tout cas, on voit bien qu'on n'est plus dans le simple produit et dans la technique. Mais maintenant, on est dans quelque chose d'un peu global. Point de départ, quelle organisation tu préconises?
D'abord, il faut que la DG ou la présidence soit impliquée. Innover, c'est prendre des risques, faire des choix qui ne sont pas forcément ceux du business normal. Donc forcément, il faut avoir la tête de l'entreprise parce qu'il y a un moment où il y a des virages à prendre, des décisions à prendre qui sont seulement prenables par les dirigeants.
Impliqué à quel point ?
Impliqué au point d'être dans, au minimum, les réunions stratégiques, recevoir toutes les infos, sans aucun doute, parce que si demain, vous décidez, comme chez Babola, à un moment, il y a une vingtaine d'années, de vous diversifier dans les chaussures, alors que vous étiez, il y a 30 ans ou 40 ans, un fabricant de cordes, puis vous avez décidé une première diversification pour aller dans les raquettes, puis vous en décidez une deuxième pour aller dans les chaussures, c'est forcément...
Ça part du top management.
Absolument. C'est pas lui qui va travailler, mais les décisions en matière d'innovation, qui sont parfois des virages très importants à prendre, et parfois des plus petits, elles doivent être directement reliées à la DG. Ensuite, il faut ce qu'on appelle, nous, une magic team ou une core team, alors c'est de l'anglicisme, une équipe resserrée, okay, où il y a tous les pouvoirs signifiants dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait le commerce. Souvent, on dit « Ah là là, ce n'est pas les commerces qui dirigent l'innovation. » Ils ne dirigent pas l'innovation et une boîte ne doit pas être dirigée par ses commerciaux. Mais ne pas mettre les commerciaux dans un processus d'innovation, c'est déjà rater l'accès au marché.
Ouais. Donc, il faut qu'il y ait... En plus, tu n'as plus l'adhésion et derrière, quand tu vas avoir besoin d'eux... Donc, dans les deux sens. D'abord, pour récupérer de l'info et ensuite, dans l'autre sens, pour pouvoir présenter au marché.
Sans aucun doute. Donc, il faut évidemment la R&D, il faut évidemment la direction marketing. Il faut évidemment, quand il y en a, les designers. Dans toutes les entreprises, il n'y a pas d'équipe de design. Et souvent, d'ailleurs, on confond design et designer. Ce n'est pas parce qu'on a un designer qu'on fait du design. Le design, c'est un process. Tout design, c'est concevoir. Donc, un designer qui a commencé à apprendre à dessiner le produit, il n'a pas fait une école de commerce, il n'a pas fait une école d'ingénieur, il n'a pas fait, etc., etc. Donc, il faut une équipe. Donc, une équipe resserrée, le minimum, c'est ça. Et on va à l'extérieur quand on n'a pas toutes les autres compétences que sont l'ergonomie, la sociologie, l'anthropologie pour aller comprendre le marché, un atelier maquette, un atelier prototype, des graphistes, etc. De la R&D, des prototypes, on les prend à l'extérieur quand on ne les a pas. Puis plus on a de choses, ou de compétences et d'expertise à l'interne, plus on peut réduire l'équipe extérieure. Mais voilà, donc on a un système, nous, qui s'appelle The Lift, l'ascenseur. En gros, nous, on dit, faites le minimum à faire. C'est une équipe ultra resserrée, la direction financière, la DG et la direction marketing ou commerciale. Ça, c'est le minimum pour démarrer. Et puis ensuite, on peut nous apporter tout le reste des équipes dans un ascenseur. Et au fur et à mesure qu'on monte vers la fin du projet, qui coûte de plus en plus cher, parce que plus on s'approche du lancement, plus on met d'argent dans une entreprise, plus on peut nous enlever, apporter une compétence, la faire intervenir, etc., de manière raisonnée. Parce que malheureusement, pour réussir une innovation, avoir une idée, c'est 5% du projet.
Ouais.
Et donc, il faut absolument des expertises complémentaires et nombreuses pour avoir une chance que ça aboutisse. Donc, ça coûte cher. C'est pas éphémère et trop facile quand même.
Est-ce qu'il y a une recette, tu dis The Lift, est-ce que vous avez une recette qui est quasiment plaquable à tout projet? Ou est-ce que finalement, il y a... On a compris que, alors, si je reformule ce que tu dis, c'est que l'innovation, c'est de la méthode.
Oui.
Et c'est de l'expérimentation. Et que c'est en mutualisant tous les savoirs, à travers, j'imagine, des méthodologies pratiques pour faire émerger, utiliser la créativité et l'ensemble des savoirs, qu'on va obtenir déjà le point de départ qui va être la bonne idée.
Bien entendu.
Ensuite, la bonne idée, on va lui donner une matérialisation. Prototypage, t'as parlé.
Ouais.
Prototypage, c'est valable pour du physique, mais c'est valable aussi pour du service. On peut aller tester une offre ou tester
une appli
ou tout ça. Ensuite, il se passe quoi ensuite ?
Ensuite, quand on a trouvé... Bon, ça s'appelle, dans notre jargon, le design thinking.
Ouais.
C'est né dans les années 85, en même temps qu'on a créé notre boîte. Le design thinking, c'est le...
Je veux bien que tu rappelles cette méthodologie de design thinking.
Le design thinking, comme son nom l'indique, c'est la pensée conceptuelle. Et ça ne désigne d'ailleurs que ça. Parce qu'aujourd'hui, on l'a à toutes les sauces un peu, mais design thinking, c'est un processus de conception qui part de l'humain plutôt que de partir de la technologie. Donc, il y a six grandes phases. L'empathie, on essaie de comprendre son marché. Mm-hmm. Le define, on essaie de bien définir le problème grâce à cette empathie, on définit bien le problème que l'on doit résoudre, parce que c'est ça qui a de la valeur en matière d'innovation, le problème à résoudre et non pas la solution. Parce que la solution, elle sera éphémère, elle va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le problème à résoudre, elle va rester longtemps. Comment tu veux manger mieux, comment tu veux manger plus vite, comment tu veux conduire mieux en ville, ça c'est des grands problèmes. Comment on peut déplacer les flux dans une ville, donc le transport en commun, etc. Ça c'est des grands problèmes. Les solutions que peuvent être le tram, le métro, le vélo, la Dali, ça c'est éphémère. Et donc, empathie pour define, ensuite on idéate, in English, ideate, on trouve les idées, ensuite on les prototype, on les teste pour voir celles qui marchent ou pas, et ensuite on les implémente. Ça c'est le process du design thinking. Nous on a ajouté un truc important, le dire, c'est-à-dire la communication. Il n'y avait pas dans le process du design thinking la marque.
Ça on va en parler juste après. Je reviens juste sur un point, excuse-moi. Est-ce que ton métier, est-ce que le métier du... Comment tu le définis aujourd'hui, toi, ton métier ? Parce que tout à l'heure, on a parlé de Design Factory.
Ouais, d'Innovation Factory.
Innovation Factory.
Ouais. Nous, donc, on dit on est créateur d'expérience à travers la manipulation de tous les métiers du design.
Ok, bon, dis donc, ça a réfléchi là pour sortir.
Ouais, c'est pas sorti tout seul. Mais parce qu'en fait, il faut malheureusement multiples expériences. Okay. Et expertise.
J'avais une question sur l'identification du problème. Est-ce que vous avez la faculté à identifier des problèmes ? Tiens, je me rends compte que la brosse à dents du gamin, elle a besoin de... Enfin, il ne sait pas quoi en mettre, il ne sait pas quoi en faire. En plus, ce n'est pas ludique. Je vais lui mettre une ventouse et je vais voir les fabricants de brosse à dents pour proposer mon processus ou mon idée. Ou tu es plutôt une faculté à écouter toujours un client qui arrive avec un problème mal défini, mal dégrossi, et puis tu l'aides à cheminer pour arriver au problème souche, et là, tu as bien une réponse.
C'est tout à fait ça. La plupart du temps, c'est les clients qui viennent nous voir et qui disent « j'ai plus de marge, on s'est fait attaquer sur les prix, j'arrive plus à créer de la valeur, et donc est-ce qu'on peut repenser tout le schéma ?»
C'est quoi ton processus à ce moment précis ? Parce que là, obligatoirement, dans notre audience, il y a plein de gens qui ont des problèmes dans leur business. C'est normal, c'est la vie de tout chef d'entreprise. Ils ont aussi le problème qu'ils n'ont pas forcément identifié précisément la problématique à amener à un cabinet comme le tien. Comment ça se passe, ce moment-là, là, entre j'ai du bruit dans ma tête, ma marge elle s'effrite, etc., j'ai pas vraiment identifié mon problème, ou mon concurrent prend des parts de marché, j'ai pas compris pourquoi, et le moment où... Ouais. Comment tu t'y prends méthodologiquement pour faire émerger ce truc ?
Alors, chez nous, la méthodologie qu'on développe depuis maintenant plus de 20 ans, ça s'appelle la vision oblique. Hein, on a écrit d'ailleurs... 3 ou 4 bouquins là-dessus, parce qu'à un moment, on s'est demandé, est-ce qu'on trouve nos idées qui marchent ou pas ? Est-ce qu'on les trouve par hasard ? Est-ce qu'on a du talent ? Est-ce que... etc. Et on a fortifié nos méthodologies, on a appelé ça la vision oblique. Dans le processus de la vision oblique, qui s'inspire donc du design thinking, on commence par l'empathie. Comment... Oui. Et l'empathie, c'est comprendre son business, son marché, ses acteurs.
Donc là, c'est interview qualitative ?
Deux interviews et beaucoup d'observations anthropologiques. C'est-à-dire qu'on va filmer les réalités. Là je travaille pour un membre de l'APM qui est, je vais pas tout dévoiler, mais qui est dans le bâtiment et qui a des nouveaux produits, il sait pas comment les lancer, il sait pas comment maintenir ses marges. Ben on est allé filmer les gens qui opèrent avec ces produits pour aller voir si vraiment ils ont des problèmes et si son nouveau produit répond soi-disant à un vrai problème ou s'il s'est fait un film. Et là on détecte et on ramène des films, pas des rapports. On ramène des films, des mouvements, des usages. Nous, on part de ce qu'on appelle l'ingénierie des usages, la réalité des usages. Et on a une méthodologie qui consiste, et là, notre clé, elle est là, à mettre des filtres dans cette observation. On pense en France que, on entend souvent ça, un œil naïf. Il nous faut un œil naïf pour trouver une nouvelle idée. Un œil naïf, c'est un œil con. Et naïf, c'est marqué dedans. Donc nous, on a changé cette approche-là. On fait ce qu'on appelle des postulats, c'est-à-dire qu'à l'inverse de l'œil naïf qui va observer et qui donc verra que des banalités, on va observer avec des angles de vue. Okay. Il y en a 3. Le savoir-faire, l'expérientiel et la simplexité. Le savoir-faire, il est historique en fait. Toutes les boîtes se sont développées depuis le début du siècle grâce à du savoir-faire. Donc les boîtes, elles sont ancrées et bloquées par leurs œillères de savoir-faire. Si j'améliore la techno, ça va être mieux pour mon client. Pas sûr. L'expérientiel, c'est au-delà du savoir-faire. Comment on le manipule, comment on stocke ce produit, comment on rentre en contact avec ce service ou ce produit, parcours client, blablabla. Et la troisième, la simplexité, c'est y a-t-il moyen d'expliquer beaucoup plus simplement cette belle idée que vous avez, quoi. C'est-à-dire, c'est juste, ça coûte moins cher ou ça va marcher plus facilement, des trucs très simples.
Okay.
Et on regarde la même scène, le même sujet, tous les sujets qu'on nous confie avec ces 3 angles de vue. Rien qu'avec ça, vous trouvez des pistes d'innovation terribles.
Donc ça, c'est une première étape, on va dire, c'est l'étape obligatoire, on démarre par ça.
Absolument.
Ça prend combien de temps ?
Ça peut prendre entre 3 semaines et 3 mois, suivant la complexité okay. du sujet.
Ok.
Mais c'est la clé. Parce que dans beaucoup d'entreprises, il y a trop de sujets d'innovation en réalité. Il y a trop de chantiers, parce qu'on veut taper dans tous les coins. Le but de cette première approche, c'est d'éliminer les sujets qui ne servent à rien. Nous, on appelle ça tuer le chaton. C'est-à-dire que chacun a ses beaux petits projets qu'on caresse en se disant « Oh là, celui-là, ça va être un projet, j'y tiens vraiment, j'y ai mis toute ma vie, toute moi. » Non, tue-le celui-là, tue-le parce qu'il va servir à rien, il va pas sortir au bon moment.
Ils sont horribles chez Zebra, ils exterminent des chatons, oh mais quelle horreur. Tu as parlé tout à l'heure de l'offre et de la marque. C'est pareil, c'est assez contre-intuitif. Quand on parle de design, quand on parle d'innovation, on ne pense pas tout de suite à cette dimension-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi d'abord l'offre puis la marque sont deux éléments fondamentaux dans ton travail ?
Il y a toujours eu un petit conflit ou un débat dans le monde sur est-ce que c'est la marque qui va induire l'offre ? Donc on commence par la plateforme de marque, la vision, et puis ensuite bah, ça va faire décliner une offre. Ou est-ce que c'est l'offre qui fait la marque ?
C'est quoi une plateforme de marque pour ceux qui ne savent pas ?
Une plateforme de marque, c'est vraiment la définition de la vision de l'entreprise, comment elle voit son marché et de son positionnement au sein de cette vision. Je pense que le marché a 5 ou 10 ans et sera fait comme ça. Et je pense que mon positionnement, ma mission, mon guide dans cet environnement-là, c'est d'être ça. Et on en découle ensuite un ton, des produits, des actions, etc. Voilà pour moi ce que c'est une plateforme de marque. Maintenant, il y a des entreprises qui fixent ça pour en déduire l'offre et il y a des entreprises dont l'offre peut construire la marque. Parce que tout le monde parle de marque, mais il y a très peu de marques dans le monde. Beaucoup d'entreprises ont des appellations, ce que j'appelle des appellations connues. Mais ont-elles une marque ?
C'est quoi une marque ?
Une marque, c'est le premium que les gens sont capables de payer juste pour l'avoir. Tu as un sweat sur toi, est-ce que c'est le même sweat qui sort d'une usine pas loin d'être celle d'une marque que je pourrais dire comme Zara ou et je vais aller plus loin.
C'est un coton plus lourd. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la vision, c'est un coton bien plus épais. Hein. Et puis il a un vert que même peu de sweat ont.
Je suis d'accord. Et bien donc, entre...
Ouais, il a une étiquette, ok, d'accord.
Entre une marque premier prix et cette étiquette-là. Le premium que tu as payé, c'est ça la marque pour moi.
Okay.
C'est cette capacité qu'a une entreprise à t'entraîner dans sa croyance, à t'entraîner dans un désir, une envie. Et voilà, ça, y a plein d'entreprises qui n'ont pas des marques, ils ont un logo connu.
Et est-ce que tu as fait des innovations majeures qui rendent un service, qui répondent à un problème et qui règlent ce problème-là ? Est-ce que si elles n'ont pas la puissance d'une marque ou si l'offre est mal packagée, elles ne rencontrent pas leur marché ?
Ah ouais, ça sera beaucoup plus dur, c'est évident.
Exemple comme ça de...
J'ai plusieurs exemples de...
Qui avaient tout pour réussir et puis ça a foiré, notamment pour des questions de branding qui étaient mal faites.
Ben, j'en ai un chez Rossignol pour qui on travaille depuis une vingtaine d'années. On vient d'en sortir une qui marche, alors je peux me permettre de dire celle qui... On conçoit avec eux les chaussures de ski depuis une vingtaine d'années. Bon, Rossignol, c'est une belle marque
dans le ski. Hein.
Ben, il y a 15 ans, on a imaginé ensemble une révolution dans la chaussure de ski qui était la première chaussure de ski qui...
Claquette. La première claquette de ski.
En tout cas, ça aurait pu être ça. La première chaussure de ski... qui offrait du confort. C'est-à-dire que quand on va au ski, le meilleur moment pour des mauvais skieurs comme moi, c'est quand on les enlève. Hein. Ça me serrait trop, c'était super dur. Et on invente à cette époque-là une chaussure de ski qui est ultra confortable. On est tellement fiers, donc ça c'est il y a une quinzaine d'années, on est tellement fiers de le faire qu'on l'a appelée la soft. Alors la soft, ça ne nous parle pas en France, pas trop ce mot soft. Ça veut dire un peu cool, doux, je ne sais pas comment vous le traduiriez, mais en tout cas en anglais, soft égale mou. Et on a donc lancé une chaussure qu'on a appelée la molle, la pantoufle. On était tellement contents de notre bénéfice qui était le confort qu'on l'a appelé confort. Personne va au ski pour être dans le confort. Tout le monde va au ski pour s'éclater. Même si on est nul et qu'on descend en chasse-neige, le prochain virage sera mieux.
La dynamique, quoi. Oula. Yes.
Bah oui, c'est comme l'air. Ils ont inventé l'air chez Nike pour vous permettre, vous qui ne savez pas courir et qui n'avez pas trop de muscles et de tendons, on vous a mis un matelas pneumatique dans la semelle pour amortir tout ça. Mais ils n'ont pas dit, tiens, bonjour, allez courir dans la pantoufle. Ils ont dit, air, sautez plus haut. On s'est trompé. Donc, le pouvoir des mots et des marques, ça peut foutre en l'air un produit. Là, cette année, on sort à peu près sur le même concept une chaussure qui s'appelle la Vision, qui offre un système d'entrée, ce qu'on appelle le step-in système. C'est-à-dire vous rentrez et vous sortez de votre chaussure en une seconde et c'est ultra confort, ultra facile. Mais vous skiez bien, bah, on l'a appelé la vision parce que c'est une nouvelle vision du monde, c'est pas une pantoufle.
À quel moment tu penses que la dimension branding doit rentrer en ligne de compte quand on est dans un projet comme ça d'innovation?
Alors c'est typiquement tout le concept de Groupe Zebra, c'est il n'y a pas de séquence, tout le monde doit travailler ensemble et c'est ça la difficulté de l'innovation. Dès le début, il faut une équipe à 360. Dès le début, le branding est là et l'un va faire évoluer l'autre. Parfois, la technologie va évoluer, il faudra changer le discours. Parfois, le discours, on s'apercevra qu'il ne mord pas. Quand on présente les produits, il faudra changer un élément technique pour modifier le discours, etc., etc. C'est tout lié. Et c'est dès qu'on produit ça en séquence qu'on fait des erreurs. Or, l'entreprise est structuré en séquence. Une entreprise classique a des silos. Il y a le département marketing, département R&D, département développement d'ailleurs, département finance, etc. etc. Et en matière d'innovation, en fait, c'est là où on fait la confusion avec start-up, parce qu'une start-up, c'est minuscule, donc tout le monde est soudé. Tout le monde fait des conneries parce qu'on n'a pas assez d'experts dans une start-up, donc on fait plein de bêtises. Mais le principe est là, être concentré, soudé et avancer tous en même temps. Donc voilà, on fait des erreurs à chaque fois qu'on se dit bientôt, on va appeler la marque, ou bientôt, on va appeler le design, ou bientôt,
c'est tout en
même temps.
Et alors, il s'avère que parfois, ça ne se passe pas comme on avait envie, que finalement, le projet, il commence à flotter un peu. C'est quoi les indicateurs que tu suis pour éventuellement décider d'arrêter un projet d'innovation?
Alors nous, on a trois critères, la désirabilité, la faisabilité et la viabilité, en gros. Donc, on mesure il faut tout le temps avoir ça en tête. Est-ce que c'est désirable? Et on essaye de questionner. Est-ce que c'est fiable comme solution? Et est-ce que c'est viable en termes économiques?
Et vous le suivez en continu, ça?
Absolument.
Okay. Est-ce que tu as des jalons dans un projet? Est-ce que tu conseilles de jalonner avec un moment stop ou continu?
Bien sûr.
En fonction de ces critères-là.
Il faut tuer les projets le plus vite possible.
Ah, tuer les chatons.
Tuer les chatons, j'en reviens là. Donc, les jalons servent à ça, arrêter les projets le plus vite possible, parce que plus on avance, plus ils coûtent. Et à l'inverse, c'est ce qui permet aussi de les réorienter le plus vite possible. Maintenant, on emploie le mot pivot. Moi, je ne parle pas de pivot, je parle de réorientation ou stop.
C'est quoi l'ajustement le plus classique que tu vois, est-ce qu'il y en a des ajustements qui sont un peu des classiques du processus?
Le plus gros défaut, c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire de faire de mieux en mieux. On pense que pour innover, il faut faire mieux qu'avant. C'est un biais cognitif à nouveau, quoi. Faire mieux qu'avant, c'est souvent produire plus cher, puisqu'on fait mieux qu'avant, donc entraîner une augmentation des prix, donc augmenter le prix au bout, parce qu'on voudrait faire plus de marge quand on y... Et tout ça nous emmène dans trop cher, hors marché. Donc le premier jalon, c'est pas faire mieux qu'avant, c'est faire mieux pour l'humain, mieux pour le client, mieux pour les intermédiaires. À qui je vais faire gagner de l'argent? Est-ce qu'on a pensé à mon distributeur? Est-ce qu'on a pensé au logisticien? Est-ce qu'on a pensé et bien sûr au client final?
Ça, sur la question du progrès, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'experts de l'APM qui réfléchissent sur cette question du progrès, parce qu'on a une espèce d'illusion qu'on est tout en haut de la chaîne du progrès depuis toujours. Quand on regarde Olivier Hamon qui parle de biomimétisme et qui dit « non mais inspirez-vous de la nature avant même qu'il y ait l'homme ». Quand on voit moi j'ai eu une expertise sur l'époque médiévale qui disait « mais attendez, on n'a pas progressé depuis l'époque médiévale dans bien des domaines ». Quand on voit, en tout cas c'est intéressant de se dire… Et ça, c'est peut-être une idée reçue aussi qu'on peut casser c'est de dire, mais en fait, on n'est pas tout en haut d'un long chemin qui nous amène, enfin, qui fait que du progrès depuis toujours.
Sans aucun doute.
Bon.
Et là, en ce moment, on dit qu'on est dans une époque de chaos et qu'on multiplie les chaos et les grandes ruptures. C'est juste que, comme on se trompe de chemin, le chemin change.
Après, il y a un fait, c'est que l'info circule beaucoup plus vite qu'avant. Et que ça rend les choses beaucoup plus complexes à appréhender et puis tellement rapide et instantané que...
L'info-obésité, c'est pas loin de l'info-bêtisé. Et donc, les gens se font des faux chemins. En fait, c'est tout simple. Ce sont des courbes. Tant que le coût d'amélioration d'un service ou d'un produit apporte, tant que ce coût reste raisonnable par rapport au service rendu, donc c'est vraiment deux abscisses, un abscisse et un ordonné. Tant que le coût reste raisonnable par rapport au service rendu, tout va bien. Mais dans beaucoup de produits, le coût d'amélioration est tel et le service rendu n'est plus vraiment très différenciant. Là, tout le monde perd de l'argent. Les clients ne veulent plus l'acheter, c'est trop cher. Et l'entreprise dépense de plus en plus pour améliorer un truc qui ne sert plus à rien. Donc, il faut changer de sujet.
On est à quelques... Donc là, on enregistre en janvier. Je ne sais pas quand l'épisode sortira, vraisemblablement plutôt en février. Mais on est avant la convention. Convention qui va réunir finalement tous les membres APM du monde entier. Beaucoup d'experts. Toi, tu es un jeune expert. Ça fait quoi, 18 mois, tu me disais que tu es expert à l'APM. J'imagine que tu vas chercher une forme de sens dans cette... quête un peu de... Aujourd'hui, tu nous as, avec ton bâton de pèlerin, défendu et prêché la bonne parole de la bonne innovation au service des entreprises françaises. La question arrive. La question, c'est comment tu... S'il y avait un baromètre un peu de là où on en est en France, dans ce que tu observes, où on en serait, où on se situerait, autrement dit, on est sur un échiquier international. Là, on va être confronté aussi... en tout cas, on va pouvoir échanger avec nos pairs qui sont un peu partout dans les clubs à l'étranger. Où on en est ? Deuxième, est-ce que tu as une crainte particulière ? Et puis une troisième question, parce que comme ça, sinon, c'était pas assez. C'est quoi ta motivation intrinsèque là pour être devenu expert APM ?
Alors,
on peut commencer par la dernière.
Oui, si je vais commencer par la dernière simple. Parce que ça va amener les deux autres. Pourquoi l'APM ? D'abord, parce que j'avais des clients qui étaient à l'APM qui trouvaient ça génial et je me disais, j'ai compris qu'ils passaient un jour par mois.
Déjà, tu aurais dû être membre avant d'être expert. Ans chef d'entreprise, je te félicite.
Mais en fait, je me disais, c'est impossible, pour être franc, dédier un jour par mois de l'entreprise.
On n'est que des glandeurs. Hein.
Et après, donc j'ai croisé des clients qui le faisaient. Je leur ai dit, mais un jour par mois, vous êtes fous. Et ils me disaient, mais non, mais je m'enrichis là-bas. C'est pas un jour dédié à autre chose. C'est un jour où j'apprends. Bon, OK. Maintenant, je me rends compte, c'est ce que je fais en tant qu'expert. J'y passe un jour par mois à rencontrer les autres. Et ça va, ça rentre dans mon agenda. Donc ça, c'est le premier point. Je suis allé à l'APM parce qu'il est temps de créer un grand signal d'alarme. Et je me suis dit, j'ai plus de temps. Et de toute façon, les seuls gens qui m'intéressent, c'est les dirigeants. Donc, je veux aller leur parler, je veux qu'on échange et voilà. Et donc, youpi. Et en fait, le message est le suivant. L'industrie, on a tous vu depuis 10 ans qu'elle est en Asie du Sud-Est. Hein, l'usine du monde, il n'y a pas besoin de lutter. Hein. On peut bien dire réindustrialisation la France. Je le fais avec des copains. On investit dans des boîtes de textiles avec Chamatex Group. On lance des marques de chaussures. On lance une marque de vêtements qui s'appelle Inspiration. J'y vais, moi, dans l'industrie. Mais combien c'est dur de réindustrialiser un pays où tout est bloqué, tout est cher, tout est complexe. Donc, franchement, au niveau global, l'industrie, elle est partie ailleurs. Premier point. La tech, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle est aux États-Unis. Pendant que nous, on arrive à lever 500, 600, 700 millions dans l'IA, ils en sont à 50 milliards. Donc, on a d'un côté, le monde est en train de se polariser. D'un côté, on a l'usine du monde. De l'autre côté, on a la tech du monde. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste... non pas le savoir-faire, mais le savoir quoi en faire. Et c'est ça mon message. En Europe, c'est notre lutte, c'est savoir quoi en faire. Il y a des technologies, il y a des outils de production, il y a des tas de choses comme ça, mais pour faire quoi ? Est-ce que c'est pour avoir une plus grosse montre qu'avant, des lunettes qui voient mieux qu'avant, etc., etc. Et donc, je pense que nous, en Europe, avec nos ingénieurs, on a des écoles d'ingénieurs réputées dans le monde entier, dans tous les domaines, on a des écoles de commerce et de marketing réputées dans tous les domaines, on a une super formation globalement, mais... pour en faire quoi ? Et en fait, le message de l'innovation, c'est ça. La différence ne se fera plus par le prix, la différence va se faire par la connaissance de l'humain. Quels sont les besoins de cet humain ? Qu'est-ce qu'un Français, un Italien, un Allemand ou un Espagnol a besoin en matière de vêtements, en matière de casque audio, parce qu'on en a un sur la tête, en matière de... etc. etc. Et c'est en comprenant la culture, le mode de vie, l'expérience client, les réseaux de distribution, les chaînes de marge qu'on peut innover. On n'innove pas plus forcément par la R&D seulement, mais il y a trois moyens. Il y a des idées qui viennent de la R&D, des idées qui viennent du marché, d'où les commerciaux, et la création de nouveaux besoins. Il faut créer des nouveaux besoins. Ma brosse à dents à ventouse, personne ne m'a dit, tiens, je voudrais bien mettre une ventouse pour la rendre verticale et faire moins peur aux enfants. Mon ascenseur à cornichons de tout à l'heure, personne ne m'a dit, tiens, je voudrais bien... Non, il y avait déjà...
On en avait marre de se tremper les doigts dans le vinaigre. Hein.
Et pourtant, il y avait des pinces à cornichons à l'époque. Ah, oui. Sauf que ce n'était pas pratique, il fallait la mettre à côté, il fallait la ranger, la nettoyer. Donc en fait, on avait développé des solutions qui paraissaient intelligentes, mais créaient d'autres problèmes. Vous savez, un smartphone dont personne ne peut plus quitter. Hein. Là, ouais, je sors du métro pour voir des milliers de gens dans un smartphone en train de scroller. Eh bien, ce smartphone, qui soi-disant est un outil magique... vous a foutu en l'air tous vos agendas. Vous êtes devenu photographe, pigiste, banquier, tout. toutes les applis vous créent du boulot. Et après, vous dites, oh, on n'a plus de temps, le monde est fou. Non, non, tu passes ton temps à faire des choses que tu ne faisais pas il y a 30 ans, etc., etc. Donc, en fait, on est en train de développer beaucoup de solutions qui ne résolvent pas les vrais problèmes. Je pense que nos entreprises françaises gagneraient à redimensionner des vraies problématiques, des vrais problèmes à résoudre, in English, des pains, pour qu'on... On utilise des moyens de R&D ou de développement, enfin d'ailleurs pas de R&D, pardon, de production qui peuvent être effectivement au Portugal, en Europe de l'Est, en Asie. Pour moi, c'est pas un combat. Mais surtout, quel service on rend à nos clients? C'est ça qui fait la valeur. Hein. Et voilà, je pense qu'on a en Europe un mode de vie, un niveau culturel, un niveau, une économie qui justifie à elle seule de rester très très fort. Mais il ne faut pas se tromper de combat.
Merci pour ce message d'ouverture. Et puis voilà, ça donne des bonnes pistes. Un grand merci pour cet échange et je te dis à la convention. À très vite. Salut Bertrand.
Ouais, c'était un plaisir. Merci.